Christine Herrel, économiste, spécialiste aussi de ces questions, et Vincent Jarousseau qu'on a eu au téléphone, photographe, journaliste documentaire. La réalisation de ce numéro était assurée par Raphaël Nivois. Les archives RTL ont été sélectionnées par Florence Larcade. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commenter ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles ou sur l'application RTL, le site rtl.fr.
RTL. RTL, il est 1h. 24 heures d'info, Victor Pourchet.
Un 1er mai surveillé, mais annoncé calme par une note des renseignements consultée par RTL. Elle évoque des cortèges majoritairement festifs, mais prévoit quelques tensions, notamment en lien avec la guerre à Gaza. 270 manifestations sont prévues dans toute la France. 150 000 personnes attendues, dont 30 000 à Paris. Et combien dans les rangs des syndicats qui ne marcheront pas unis, contrairement à l'an dernier contre la réforme des retraites? La CGT, FSU et Solidaires défileront contre l'austérité. La CFDT pour une Europe plus ambitieuse, notamment à Nancy. Le Rassemblement National, lui, ne célébrera pas Jeanne d'Arc, comme c'était la tradition sous Jean-Marie Le Pen, mais Jordan Bardella sera en meeting à Perpignan. La tête de liste RN aux européennes, avec Marine Le Pen, doit y présenter ses 34 colistiers pour ses élections. Le principe d'une marche blanche samedi pour Matisse, c'est oui, reste à en définir les contours. Le maire de Châteauroux dit s'être mis d'accord avec la famille et discuter désormais avec la préfecture. L'adolescent de 15 ans tué à coups de couteau, le suspect du même âge, est mis en examen pour meurtre, sa mère pour violence volontaire sur personne vulnérable. La moitié des prix du péage de l'A14 près de Paris prise en charge par l'État, mais seulement pour les covoitureurs. C'est l'annonce du ministre des Transports, une mesure pour compenser la fermeture de l'autoroute A13, toujours éventrée en partie par des fissures. La mesure durera jusqu'à la remise en service de l'axe, mais on ne sait pas encore quelles en sont les modalités d'application précises. Une tragédie sans nom, une escalade intolérable. Les mots de représentants des Nations Unies sur une éventuelle offensive israélienne sur Rafah à Gaza. Offensive qui aura lieu avec ou sans accord de trêve avec le Hamas, affirmé plutôt Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui accuse toujours des chefs du mouvement terroriste de s'y cacher parmi les réfugiés palestiniens. Le sport et le football, les demi-finales allées de la Ligue des Champions et le Real Madrid est allé décrocher le match nul de partout à Munich contre le Bayern. Ce mercredi, 21h, le Paris Saint-Germain se déplace à Dortmund. Vous suivrez ça dans RTL Foot, édition spéciale dès 20h autour d'Eric Silvestro. La Formule 1 et le monde de l'automobile rend hommage à Ayrton Senna. Le légendaire pilote brésilien mourait il y a tout juste 30 ans dans un accident sur le circuit d'Imola en Italie, là où lui sera rendu un hommage ce mercredi. Et puis vérifiez bien vos tickets si vous avez joué. Un Français vient de remporter plus de 166 millions d'euros à l'euro-million. Alors pour gagner le jackpot, il fallait cocher le 13, le 22, le 24, le 33, le 47 et les deux étoiles 5 et 1. Votre météo de ce mercredi, le temps sera bien pluvieux sur les trois quarts du pays avec des orages en journée, plus marqués sur le centre-est. Ce sera bien plus lumineux sur l'Alsace-Lorraine, les maximales de 10 degrés à Tarbes jusqu'à 26 à Strasbourg. Et puis les courses, le quintet est à Saint-Cloud ce mercredi après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 5, le 3, le 11, le 2, le 9, le 8 et le 4. L'outsider de RTL, c'est le 2, Jojo Junior.
RTL, 24 heures d'info. RTL, jour J, avec Flavie Flamand, la rediffusion.
Chaque soir sur RTL et dans un instant on vous explique les dangers et les ravages de l'application TikTok et pourquoi elle est menacée de suppression. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast.
Et en plein débat autour de l'addiction aux écrans, l'Europe a décidé de s'attaquer au réseau social chinois. La Commission européenne menace en effet de suspendre la nouvelle application Light TikTok.
Light TikTok donc à peine lancé et déjà suspendu. Light TikTok qui rémunère les utilisateurs selon le temps qu'ils passent sur l'application. Ou comment abrutir, siroter le cerveau de la jeunesse, abolir son libre arbitre et la rendre manipulable à merci jusqu'au suicide. De surcroît, derrière TikTok se cacherait le pouvoir politique chinois, ses idées, ses ambitions et la récolte de toutes nos données personnelles. Ce soir, tour d'horizon spectaculaire et macabre d'un phénomène devenu hors de contrôle. Océane Herrero, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Politico et vous êtes l'autrice de ce livre aux éditions du Rocher, Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies. On va justement expliquer par le menu à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette application. On a le sentiment d'ailleurs quand on vous lit que c'est une sorte de piège tendu, une toile qui se referme sur les utilisateurs sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est ça en fait qui est assez démoniaque dans cette application. Mais parmi nos auditeurs, il y en a qui ne sont pas sur TikTok et sûrement plus nombreux qu'on l'imagine. C'est quoi TikTok ? C'est combien d'utilisateurs dans le monde ?
Alors, TikTok, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. En France, plus d'un tiers de la population. Donc voilà, on sent que l'application est extrêmement utilisée aujourd'hui. La particularité de TikTok et disons ce qui a fait son succès depuis son lancement en 2017, ça va être un fil vidéo qui s'appelle le fil pour toi, qui est ce sur quoi on tombe quand on ouvre TikTok.
Donc c'est du sur-mesure finalement ?
Exactement, c'est un fil qui va être affiné en permanence par un algorithme qui va détecter vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse, en fonction du temps que vous passez sur chaque vidéo notamment, pour ensuite vous proposer un fil vraiment exactement taillé sur mesure et qui va être quelque chose d'assez, disons, absorbant pour l'utilisateur. On considère qu'en moyenne on y passe, en tout cas l'utilisateur moyen, il passe 1h30 par jour.
Donc en fait, on reviendra en détail tout à l'heure sur la façon dont cette addiction se met en place, mais en fait quand je suis utilisatrice de TikTok, très vite, j'ai le sentiment de devenir une utilisatrice privilégiée, d'avoir le sentiment que TikTok se met au service de mes besoins. Mais en réalité, il les crée, mes besoins. C'est un peu ça.
C'est ça, c'est-à-dire que ça va être une application où on va avoir le sentiment d'être extrêmement bien compris par le fil. On va, disons, être de plus en plus profilé par TikTok et c'est quelque chose d'assez confortable pour un utilisateur d'avoir en permanence quelque chose qui correspond à ses centres d'intérêt, à ce qui le préoccupe. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement, disons, plaisant pour un utilisateur.
Je disais aussi, Océane Herrero, que derrière TikTok, il y a le gouvernement chinois. En fait, ça vient de Chine, ça existe depuis combien de temps ?
Alors, TikTok, ça existe depuis 2017 et ça dépend d'une entreprise donc basée en Chine qui s'appelle ByteDance, qui développe toutes sortes d'applications et notamment un équivalent de TikTok pour le marché chinois qui s'appelle Douyin. Donc, ça a été vraiment leur modèle précurseur d'avoir ce type d'application-là. En considérant leur lien avec le gouvernement chinois, TikTok et ByteDance nient évidemment être, disons, dépendants du gouvernement chinois. TikTok, disons, essaye de diminuer en permanence justement ses liens avec cette partie-là de son activité. Mais ce qu'on sait, c'est que, évidemment, le gouvernement chinois est extrêmement attentif à ce qu'il advient de cette application qui est la première, en fait, à parvenir à disons, être aussi active sur les marchés occidentaux.
Ça a marché tout de suite ? Parce que le confinement a fait le lit, finalement, de TikTok.
C'est ça. La vidéo courte et tout le modèle qui a été porté par TikTok n'était pas ce sur quoi la plupart des grandes plateformes misaient au lancement. Et donc, on a vraiment vu, disons, l'application exploser en 2020 avec les confinements et donc un besoin de nouveauté de la part des utilisateurs, de connexion qu'ils ont pu trouver sur TikTok avec donc énormément de vidéos où les gens se montrent face caméra. Enfin bref, un sentiment de connexion assez rapide avec d'autres utilisateurs.
Je voudrais qu'on parle du contenu de TikTok pour ceux qui ne s'y sont jamais rendus. Qu'est-ce que je vais trouver sur TikTok ? Des vidéos très courtes, vous l'avez dit. Donc en fait, ça se consomme. Je sais pas, c'est marrant. Dernièrement, quelqu'un me disait le zapping qu'on a connu nous, les darons. Vous n'avez pas connu le zapping, vous ?
Aussi un peu, mais
ça m'assure. Le zapping, c'était un peu l'ancêtre finalement de TikTok. Et j'ai trouvé ça très très juste, assez brillant comme analyse. Sauf que le zapping, ça durait quelques instants. En fait, TikTok, c'est un zapping H24.
Mais si je me rappelle bien, à l'époque, on critiquait déjà la tendance au zapping.
Absolument, donc, absolument.
C'est quelque chose qui a tendance à s'accélérer, disons, à être un petit peu dans tous les aspects justement maintenant de la consommation de médias avec les plateformes à la demande. Et TikTok répond un petit peu à cette dynamique.
numérique-là.
Et qu'est-ce qu'on y trouve alors ?
On y trouve énormément de choses. TikTok s'est d'abord fait connaître pour les vidéos de danse et de lip-sync, c'est-à-dire des gens qui miment avec leurs lèvres les paroles d'une chanson. Donc voilà, quelque chose d'assez
c'est fun,
frivole, léger, exactement. Mmh. Mais depuis, c'est une plateforme qui s'est énormément diversifiée avec l'élargissement de sa base d'utilisateurs. Donc on y trouve des vidéos d'influenceurs, tout ce qui est de plus lambda, des vidéos sur la politique également, énormément de lancements de tendances musicales. Donc voilà, c'est aujourd'hui,
mais
c'est tout
mais
ça.
Mais par rapport à un média comme Instagram, à un autre réseau social, alors, je ne parle pas de X, Twitter, dont on a tous identifié le modèle, mais par rapport à Insta.
La principale différence que je verrais par rapport à Instagram, c'est que sur Instagram, on est quand même l'origine, c'est quand même voir ce que font ses amis.
Puis on a son propre compte et on
voit
qu'on
va alimenter avec des aspects personnels de notre vie. Sur TikTok, vous allez voir beaucoup moins vos amis et beaucoup plus des créateurs de contenu ou des personnes que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes plus dans une posture de consommation que d'interaction.
D'accord. Donc là, je regarde mes potes. Il y a du monde dans l'équipe là qui est sur TikTok ? Personne, hein ? Voilà. Ok, on a bien compris. Alors, comment fonctionne TikTok ? Je ne peux pas aller vous voir sur TikTok, les amis. Comment fonctionne TikTok ? Comment a-t-elle rendu cette fameuse jeunesse, principalement la jeunesse accro ? Quelle influence délétère TikTok a-t-elle obtenue sur leur existence ? Vous allez apprendre énormément de choses ce soir et puis surtout, vous allez en comprendre. On se retrouve tout de suite dans Georgie.
Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
Tu passes combien de temps par jour ?
Ça fait quand même bien 3 heures par jour, hein. Donc ça utilise beaucoup de mon temps libre. En fait, on dit ouais, on reste une heure même pas. Et au final, on scroll et toute la journée. Hein. C'est vraiment une addiction maintenant. Je sais que c'est mauvais, mais c'est pas grave, on passe le temps avec ça. À l'arrêt de bus quand je m'ennuie, je suis sur TikTok, dans le bus quand je m'ennuie sur TikTok, même aux toilettes, tout le temps, vraiment. À l'école quand je m'ennuie, quand la prof elle fait son cours et tout. Sinon le soir dans mon lit tranquille. Avant je dormais très tôt, 22h max je dormais. Et là maintenant vu qu'il y a TikTok, etc, les réseaux sociaux, je dors vraiment très tard. Hein. 2h du matin, 3h du matin, ça nuit à mon sommeil.
Océane Herrero est journaliste à Politico. Elle est notre invitée ce soir. Son livre, on vous le conseille, s'intitule « Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies ». Il a paru aux éditions du Rocher. Et justement, il permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer parce que TikTok est au cœur de l'actualité. On vous expliquera plus en détail pourquoi. Mais là, on essaye avec vous de comprendre ce phénomène parce que c'est d'un phénomène qu'il s'agit. C'est le seul réseau social qui soit incriminé de la sorte par rapport aux autres.
C'est le réseau social qui est vraiment, dans la lumière négativement. Hein. Dernièrement, justement, sur ces craintes, que ce soit addictif notamment, c'est pas le seul réseau social qui développe le modèle qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde se met un petit peu dans la roue de la vidéo courte. Les utilisateurs qui ont Instagram ou Facebook le voient également. Mais en effet, ça a été, le premier à vraiment mettre ce modèle au centre et à faire émerger tout ce débat-là.
Vous l'écrivez, comment la plateforme chinoise modèle nos vies, et ben c'est justement sur la base de cette addiction que l'on va expliquer à nos auditeurs maintenant. C'est quoi les ressorts qui sont mis en place ? Vous avez parlé justement de ce fil pour toi. Alors déjà, c'est génial parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde se tutoie. Et tous potes, on est tous... Non mais c'est vrai, c'est quand même incroyable quoi. Parce que les autres réseaux ont repris ce fil, mais l'ont intitulé « Pour vous ». C'est là qu'on voit que TikTok est un réseau de jeunes et qu'Instagram est devenu un réseau de darons. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on vous voit encore. Donc, le pour toi, c'est un fil, vous l'avez dit, que génère l'algorithme en fonction de nos premières visites sur TikTok et des contenus qu'on va voir spontanément et qui juge finalement et qui appréhende nos goûts. C'est ça.
C'est ça. Ça va affiner en permanence et ça va faire un effet un petit peu tunnel. Vous avez au tout début des contenus assez, grand public et puis au fur et à mesure, en fonction du genre qu'il détecte, de l'âge qu'il détecte de vous, vous allez avoir des suggestions qui vont devenir de plus en plus précises.
Océane, ces vidéos qui sont si courtes aussi accentue notre besoin d'y retourner. On dirait des tapas, en fait, ces vidéos.
C'est vraiment cet effet-là. Il y a un côté snacking dans la consommation et l'utilisateur le décrivait assez bien. C'est-à-dire, vous avez 5 minutes devant vous, vous allez ouvrir l'application et il y a un côté un peu bon, mais c'est bon, c'est 5 minutes et ensuite j'arrête. Et au final, quand on fait l'addition à la fin de la journée, on se retrouve souvent avec un temps d'écran très important. C'est un petit peu le piège, entre guillemets, dans lequel beaucoup d'utilisateurs disent se trouver, c'est-à-dire ne pas réaliser, en fait, le temps qu'ils passent sur l'application, tellement justement le côté format court nous fait perdre un petit peu le, disons, la mesure du temps qu'on va passer sur l'application.
On l'a entendu, hein, ce jeune qui intervenait dans RTL événement de Sophie Meyer sur cette antenne. Ce jeune, il expliquait son temps passé, la conséquence aussi sur sa vie sociale, sur son sommeil. Donc là, on parle clairement aussi de santé.
Oui, les écrans avant de dormir sont absolument pas recommandés pour.
On y est tous.
Plein de raisons, exactement. C'est assez stimulant, donc ça n'aide absolument pas, disons, à dormir. Et en effet, ça a des conséquences. Moi, les utilisateurs avec qui j'en ai parlé évoquaient justement les efforts qu'ils faisaient pour tenter de s'auto-réguler. Donc ça va être typiquement pour les jeunes supprimer l'application pendant les semaines d'examen, etc. Mmh. Parce qu'ils savent que sinon, bon, bah, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu là, facile d'accès et donne un divertissement immédiat.
On accuse TikTok aussi d'avoir une influence justement sur la concentration des élèves, notamment pendant les révisions, d'où le fait de supprimer l'application, où il existe aussi des applications qui mettent d'autres applications en sourdine. C'est quand même un truc de gestion, hein, de l'utilisation, assez incroyable. Et puis, on accuse aussi TikTok d'avoir favorisé ce qu'on appelle le multitasking. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
C'est un peu ce fait de avoir toujours deux activités parallèlement. Encore une fois, des utilisateurs avec qui j'ai pu échanger me disaient la difficulté qu'ils avaient, par exemple, à regarder chez eux un film en entier sans ouvrir l'application parallèlement, parce que deux heures de plage de concentration leur paraissaient un peu compliquées, en fait, à atteindre par rapport au temps qu'ils passent sur TikTok, où on passe d'un contenu à l'autre beaucoup plus rapidement.
Donc tu regardes un film tout en regardant TikTok, quoi.
Exactement, ouais.
Ok. Et puis TikTok, c'est aussi, par son contenu, l'effondrement, je dirais, de la confiance en soi dans une société qui est paradoxale, où on va louer le body positif tout en célébrant la perfection des physiques filtrées. Écoutez.
Vu que j'ai TikTok depuis longtemps, je vois de plus en plus de belles filles passer qui sont vraiment dans les standards de beauté actuels. Moi, je sais que ça m'a impressionné à quel point j'ai changé mentalement par rapport à ça. Physiquement, je me trouve beaucoup moins belle qu'avant. Avant, je m'en foutais vraiment. J'étais très nature peinture, voilà. J'essaye de leur ressembler. Sinon, on se sent dévalorisé par rapport à elles.
Ça, c'est le drame. Le drame aussi de cette jeunesse.
Ce qu'on sait sur l'effet des réseaux sociaux justement sur l'image de soi, et ça peut s'observer sur plusieurs plateformes, Instagram avait réalisé une étude interne qui montrait que chez les jeunes qui avaient déjà une image d'eux-mêmes, disons, plutôt négative, les réseaux sociaux allaient empirer cette pente-là. Voilà, c'est accentué justement par le fait qu'on a tendance, si on a une tendance à la comparaison avec les autres, les réseaux sociaux nous en donnent à foison, en fait, hein, pour se comparer avec aussi énormément de filtres qui vont être proposés pour s'améliorer physiquement, et ça peut fausser, disons, l'impression de réel qu'on peut avoir de soi et des autres et des standards de beauté.
Il y a du body positive sur TikTok ou pas?
Oui. Alors,
pour ceux aussi qui ne connaîtraient pas, hein, c'est la mise en valeur des corps différents, parce que, et c'est une réalité, tous les corps sont beaux, un corps raconte aussi la vie de celui qui le porte, et c'est vachement bien, moi je trouve, le body positive, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas des masses, en fait.
En fait, les réseaux sociaux sont assez paradoxales là-dessus, c'est-à-dire que vous allez avoir, disons, une tendance à l'idéalisation. À la fois, on veut des choses qui font rêver et semblent idéales, mais dans le même temps, il y a toujours un contrebalancement.
Ouais, une sorte de norme.
Ouais, et disons, de la critique aussi des propres standards qui émergent sur les réseaux sociaux, qui émergent également par le même biais, en fait. On a le discours et le contre-discours qui se côtoient, et donc c'est pas toujours évident pour les jeunes utilisateurs.
Alors là, on vient de vous parler des ravages de l'addiction à TikTok. On va se retrouver dans un instant parce que ça va encore plus loin. Et là, on va aller crescendo. TikTok, ce sont aussi des challenges qui parfois valorisent l'agression sexuelle. On va y revenir, ça s'appelle le jeu du pompier. Et puis TikTok est accusé aujourd'hui, vous l'avez forcément entendu, de pousser les jeunes au suicide. On va vous expliquer, et on aura aussi la maman d'une jeune fille, Marie, qui a mis fin à ses jours en 2021. Et qui, cette maman qui vient de porter plainte contre l'application. À tout de suite.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse.
Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Un, deux, trois, recommence-moi. Recommence-moi. J'irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes. Et on recommencera. Et on recommencera. Toi et moi. J'irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes. Et je remets.
Moi, c'était Santa et sa toute nouvelle chanson dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en compagnie d'Océane Herrero. On vous plonge progressivement avec le plus de délicatesse possible parce que là, on rentre quand même dans un des aspects les plus monstrueux de TikTok. On vous plonge dans le système qui modèle nos vies, mais qui en même temps peut les mettre en danger, surtout pour les utilisateurs jeunes qui ne sont pas préparé à ça. On le disait en fait avec vous, Océane Herrero, ceux qui utilisent TikTok sont principalement des tout jeunes, la moitié des utilisateurs, hein, entre 18 et 24 ans, je crois. Donc en fait, ce sont aussi des jeunes qui ne sont pas avertis, je dirais, pour certains. Instagram étant un réseau social de parents, des vieux, des darons, bah pour certains, c'est presque leur première expérience sur un réseau social, donc ils ne sont pas prévenus.
Bon, les jeunes sont je pense aussi sur Instagram, mais
oui, c'est vrai que là je suis en train de tenir un discours de vieux, là je suis pas du tout connectée. Ah oui, laisse tomber, d'accord, tout le monde me regarde et me confirme ça.
Facebook est peut-être un peu plus ouais,
ok, allez,
lâché
bing.
Par les jeunes,
allez. Ok, d'accord, oui, non, mais vous avez parfaitement raison, d'accord, ok, donc Facebook est lâché par les jeunes, mais Instagram, d'accord.
Oui, je pense qu'ils y sont, okay, toujours actifs. En revanche, c'est clair que TikTok a été d'abord disons investi par les jeunes, même si aujourd'hui on voit que disons la base est aussi, ouais, en train de s'élargir. Ouais. Mais il y a davantage le sentiment, oui, que c'est un espace dans lequel, disons, les jeunes décident un petit peu plus des règles du jeu, sans doute.
Justement, à propos de jeu, les règles du jeu, il y a les fameux challenges sur TikTok. Alors, ce sont des jeux, nous, qu'on avait connus dans nos cours de récréation et qui se font maintenant sur les réseaux sociaux. Des jeux qui sont aussi dingues que le jeu du pompier, qui valorise l'agression sexuelle dès le plus jeune âge. Le principe, c'est le garçon qui monte la main sur la jambe d'une petite fille ou d'une jeune fille en disant voilà, je suis le camion du pompier, tu me dis stop quand tu es mal à l'aise, et la jeune fille à un moment donné voit la jambe s'approcher de son entrejambe et crie stop, et le garçon lui met la main entre les jambes en disant les pompiers passent toujours au rouge. Ça, c'est c'est révoltant. C'est la valorisation et c'est quelque part aussi légitimer l'agression sexuelle. C'est fréquent ce genre de choses ?
Alors c'est toujours difficile à quantifier un challenge parce que bon ça va émerger généralement comme on dit organiquement, c'est-à-dire de la part d'utilisateurs qui ensuite vont s'imiter. Que peut faire une plateforme ? Elle peut modérer. C'est le principal outil donc
pour. Est-ce qu'elle le fait ?
Tellement
viral.
C'est extrêmement viral, mais dans le même temps il y a quand même un enjeu d'image qui est extrêmement important justement auprès des parents notamment parce que si les parents savent qu'il se passe des choses dangereuses sur TikTok, ça va être un souci pour la plateforme et on le voit que ça en est un aujourd'hui. Donc il y a un intérêt à modérer qui est évident, mais ça n'empêche pas les utilisateurs de lancer toutes sortes de tendances.
Alors de reprendre des anciennes tendances, parce qu'il y a le jeu du foulard qu'on a tous connu et qui nous a inquiétés en tant que parents, c'est le fait de retenir sa respiration jusqu'à l'évanouissement. Ça s'appelle le Blackout Challenge, on peut le retrouver sur TikTok. Il y a le Benadryl Challenge. Alors ça consiste à prendre une dose d'antihistaminique jusqu'au moment, une dose dangereuse évidemment, jusqu'au moment où on va avoir des hallucinations. Ça, c'est hyper dangereux. Ils font quoi, TikTok ?
En principe, ils modèrent. C'est évidemment... Alors, comment TikTok modère ? Il y a deux manières. Donc, ça va être par un algorithme qui va détecter certaines choses automatiquement et par des modérateurs humains. Alors, TikTok va modérer selon certains critères. Typiquement, on n'est pas censé voir sur TikTok quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit de l'alcool. En principe, c'est pas quelque chose qui est censé apparaître. Et également, il y a des seuils, par exemple, concernant la nudité et la dangerosité des activités. Après, il y a toujours évidemment des trous dans la raquette et des failles parce que c'est justement une application qui récompense la viralité et quelque part l'émotion que peuvent créer les vidéos. Évidemment, des jeunes utilisateurs qui, généralement c'est le cas à l'adolescence, cherchent leurs limites, vont pouvoir être attirés par ce type de contenu-là.
Pire encore, TikTok est accusé de pousser les jeunes au suicide. Je voudrais que vous écoutiez cette archive. On est aux États-Unis, c'était il y a quelques semaines seulement. Le sénateur Tom Cotton confond le patron de TikTok lors d'une audition au Congrès.
Passons à ce que TikTok, outil du Parti communiste chinois, fait à la jeunesse américaine. Est-ce que le nom de Mason Eden vous dit quelque chose ? Il avait 16 ans et habitait dans l'Arkansas. Après une rupture en 2022, il est allé sur TikTok et a recherché des choses comme des citations inspirantes. À la place, il est tombé sur de nombreuses vidéos glamourisant le suicide, jusqu'à ce qu'il se suicide par arme à feu. Est-ce que le nom de Chase Naska vous dit quelque chose ? C'était un jeune de 16 ans qui, sur votre plateforme, a vu plus d'un millier de vidéos sur la violence et le suicide, jusqu'à ce qu'il se suicide en se jetant sous un train. Êtes-vous au courant que ses parents, Dean et Michelle, poursuivent TikTok et ByteDance pour avoir poussé leur fils au suicide ?
Là, on atteint un niveau inédit.
Ces affaires-là posent une question essentielle qui est la responsabilité des plateformes dans l'algorithme et les contenus qu'elles proposent aux utilisateurs.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est des contenus qui invitent
qui peuvent être dangereux.
Qui invitent au suicide. Qui incitent au suicide.
Ouais, c'est des choses qui circulent.
Mais quoi ?
Ça va être, disons, une espèce de glamourisation de l'automutilation, ce type de contenu-là. Des choses qui font sentir à l'utilisateur que ce sont des comportements normalisés ou que son sentiment est valide et ne vont pas le pousser à aller chercher de l'aide en dehors de la plateforme, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la banalisation de la souffrance ? On a le sentiment, sur TikTok, moi j'ai vu passer 2-3 vidéos où j'étais hallucinés, de sortes de charlatans qui s'investissent tout à coup spécialistes du développement personnel et qui vont n'avoir de cesse d'expliquer que c'est normal d'avoir envie de mourir, que c'est normal d'avoir des pulsions suicidaires, que c'est normal d'avoir des souffrances. Enfin, on a le sentiment que finalement on joue avec la fragilité des utilisateurs comme on pourrait parler ou comparer de produits de beauté, quoi.
C'est le truc avec les plateformes justement qui sont basées sur des contenus générés par les utilisateurs, c'est que n'importe qui peut prendre la parole sur un sujet aussi sensible soit-il, et dans ce cas ça pose à la fois la question de la responsabilité des utilisateurs mais aussi de la plateforme dans sa capacité à modérer encore une fois les contenus qui sont dangereux pour le public.
Une capacité bien défaillante, visiblement. En France, c'est la jeune Marie qui a mis fin à ses jours à l'âge de 16 ans. C'était en 2021. Sa maman, Stéphanie, a porté plainte contre TikTok. Elle sera avec nous et avec son avocate dans un instant, dans la suite de Jour J. À tout de suite.
RTL, Jour J.
Avec Flavie Flamand. Stars fall out.
C'est YouTube.
Bonne nuit sur RTL.
RTL, vivre ensemble. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Océane Herrero, vous êtes à nos côtés ce soir pour parler des ravages de TikTok. L'application a-t-elle des morts sur la conscience? Oui, selon ses parents, qui appellent à la suppression et qui l'attaquent en justice. Selon eux, TikTok a entraîné leurs enfants sur les chemins du suicide, donc l'horreur. Stéphanie Mistre est avec nous. Stéphanie, bonsoir.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez toute ma compassion, Stéphanie.
Merci, mais je vous remercie énormément de nous laisser la parole parce que je pense que c'est important qu'on parle au niveau de TikTok et qu'on brise la glace et qu'on dise ce qui se passe en France actuellement et dans le monde.
Alors justement, cette fameuse glace, on va vous aider si on peut le faire à notre niveau à la briser. Vous êtes donc la maman de Marie. Marie qui s'est suicidée, elle avait 16 ans, hein, c'était en 2021, à la suite d'un harcèlement scolaire. Mais vous estimez aussi que TikTok a une énorme responsabilité dans cet acte ultime. Est-ce que vous voulez bien déjà nous expliquer les circonstances, nous expliquer qui était Marie et tout ce que vous faites pour elle aussi et pour tous les jeunes aujourd'hui?
Marie, c'était une jeune fille qui était gay, qui avait du caractère, qui avait envie de chanter, de rire, qui faisait du théâtre. Et c'est pour ça que quand elle était jeune, elle s'est connectée à Musical.ly, comme en parlait Océane précédemment. Voilà, Musical.ly qui était une plateforme où Marie pouvait s'exprimer, elle prenait des cours de chant. Donc voilà, Marie avait beaucoup de caractère, beaucoup de prestance. Et une enfant qui croquait la vie, qui, comme le disait sa sœur, comme tous ses amis pouvaient le dire, voilà, Marie c'était le soleil. Marie c'était la rigolade, tout le monde l'appelait Florence Foresti. Voilà, Marie elle avait envie de faire rire et de s'éclater. Le problème c'est qu'elle est tombée sur des gens qui étaient des jeunes ados, qui étaient beaucoup plus forts qu'elle et qui l'ont complètement écrasée avec ce harcèlement et qui ont réussi à lui faire perdre justement cette fameuse conscience en elle dont on parlait précédemment. Elle était déjà dans une image pas dire d'elle-même, mais négative d'elle-même, mais elle avait déjà un problème de confiance en elle.
Fragile, quoi.
Par ce harcèlement. Mmh. Mais j'ai envie de dire, quel adolescent n'est pas fragile?
Absolument.
On est passé par là. Mmh. Et je veux dire, il y a une reconnaissance du fait que l'adolescence est un moment fragile. Et ce que je reproche justement à TikTok, après avoir compris plein de choses que je vous expliquerai, c'est d'utiliser, et je rejoins Madame Herrero, la fragilité de nos adolescents. Quand même, il y a 3/4 des adolescents qui regardent TikTok, hein. De profiter de cette fragilité et de l'utiliser à des fins commerciales et pour gagner de l'argent dessus. C'est ce dont je me suis rendu compte en prenant le téléphone de Marie une fois qu'elle est partie.
Alors, voilà. Concrètement, ce harcèlement qu'elle vivait, c'était un harcèlement dans la vie réelle?
Oui, et qui continuait sur les réseaux.
Alors
aussi.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que finalement, les réseaux ont exacerbé ce harcèlement. Lui ont donné oui, plus de pouvoir.
C'est ce qu'on voit dans notre société au quotidien. Ouais. Les réseaux, en fait, ils véhiculent et ils exacerbent, en fait, si vous voulez, la violence des gens. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure, madame parlait de n'importe qui peut prendre la parole. Il y a un moment où on en vient à la liberté d'expression. Est-ce qu'on va vraiment laisser tous ces gens à travers les réseaux pouvoir lâcher leurs propos calomnieux, violents, tout ça, en fait. C'est ça le souci des réseaux. Et en fait, tous ces gens, ils sont cachés derrière un écran, donc en fait, ils envoient donc du cyberharcèlement et ça continue après l'école. Il n'y a pas de limite et ça ne s'arrête jamais. Donc, sur une adolescente qui est en embonpoint, parce que la seule chose qu'on pouvait reprocher à Marie, c'est son embonpoint
et
après des attributs de femme.
C'est tellement dégueulasse.
C'est dégueulasse. Si vous voulez, Marie, en fait, elle s'est développée très rapidement en un an. Elle est passée de 75 à 90. Donc, elle n'avait même pas encore accepté son corps, qu'on lui disait déjà des choses dessus et qu'on l'a harcelée dessus. Donc, c'est compliqué pour une jeune fille qui est en pleine construction, qui sait pas encore, qui est en train de se construire tout simplement, mais tout se passait par là à l'adolescence. Les filles, on a de l'embonpoint, on est fragile, on se pose des questions et les réseaux véhiculent ça sur la perfection, la beauté. Comme Marie disait, oui, mais tout le monde me dit tu serais tellement encore plus belle avec 4 kilos en moins. Mais moi, ces 4 kilos, ils ne me dérangent pas. Ça dérange les autres. Et du coup, on l'attaque dessus, aussi bien à l'école que sur les réseaux. Et du coup, Marie, elle est dans une ambiance de « je suis pas bien dans ma peau ». Et là, il y a TikTok qui arrive.
Alors justement, vous nous faisiez part de ce que vous avez pu retrouver sur les téléphones de votre fille ensuite. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Parce que, je le disais aussi il y a un instant, n'importe qui peut dire n'importe quoi en assénant des vérités, mais à la con. Et voilà, et c'est ça qui est hyper dangereux, parce qu'il y a une crédulité, surtout chez des gens qui ont besoin d'avoir des réponses. Quand tout à coup, on a quelqu'un qui maîtrise l'éloquence et qui va vous raconter n'importe quoi, on tombe dans le panneau. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui, selon vous, a poussé Marie au suicide ?
J'ai trouvé des contenus en fait qui prônaient l'automutilation, que l'automutilation était une libération, qu'après l'avoir fait, on se sentait mieux, libéré, moins en colère. Bon, alors, par contre, moi, j'ai jamais vu aucune automutilation sur Marie, aucune. Je ne pense pas que ma fille pratiquait ce genre de choses. Par contre, j'ai trouvé ces contenus, des contenus qui disaient comment faire un nœud pour se pendre. Et sans parler de tous les contenus nocifs de TikTok avec ses chansons, alors des chansons qui prônent le suicide aussi comme une libération, qu'on va se sentir mieux après, que je souhaiterais que mon téléphone soit enfin éteint pour ne plus entendre tous ces contenus. Mais ce qui veut dire que même dans les chansons, éteindre ce téléphone, ça s'appelle Suicide Boys, et c'est la chanson qui prône le suicide et qui dit « il faut que j'éteigne mon téléphone, que je n'écoute plus tout ça pour qu'enfin je me libère ». Eux-mêmes disent que le téléphone est un enfermement psychologique. J'ai même envie de vous dire, parce que vous en avez beaucoup parlé, avant l'algorithme, il y a quelque chose qui s'appelle la bulle de filtre. Et alors ça, je me permets, je vais lire la définition, parce que, en fait, la bulle de filtre, c'est TikTok, vous n'avez pas besoin de code, il vous demande pas votre âge, pas l'accord parental. Avant même que vous rentriez dedans, il va chercher des informations sur l'utilisateur. Donc, il va précédemment collecter des données sur lui, avec des propositions sur sa personnalité supposée. Et du coup, il va enfermer la personne intellectuellement et culturellement sur juste une personnalisation mise en place à son insu. C'est-à-dire que l'enfant, dès qu'il va ouvrir le compte, cette bulle de filtre va aller chercher dans même ses contacts, ce qu'on lui a envoyé avant, ses amis, ce qu'elle a regardé avant. C'est que même avant que la personne le sache, TikTok va en fait faire une espèce de recherche sur la personne. Et alors là, si elle capte des fragilités, elle se régale. Parce que là, du coup, elle envoie tous ses contenus nocifs.
Vous restez avec nous, Stéphanie, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Il en est une qui est à vos côtés, c'est Maître Laure Boutron-Marmion, c'est votre avocate, mais elle est également la fondatrice et le conseil d'un collectif qui s'appelle Algos Victima. C'est dire si effectivement ce problème, ce drame que vous évoquez, est partagé par d'autres en France. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
écouteurs pour deux. Vous partirez vers l'inconnu. Sur cette terre, c'est prévu. Ma chanson est dédiée aux gens qui se battent pour un amour toujours plus grand et qui font de leur vie en plein d'actes un soleil levant. Tu lui as demandé sa main sans oublier votre refrain. C'est tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu, sur toutes les avenues. Tu lui as demandé sa main, et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs pour deux, vous partirez vers l'inconnu. Sur cette terre, c'est prévu. Ma chanson, c'est surtout la leur. Ils m'ont inspiré ces mots qui viennent du cœur. Ils dansent aux premières lueurs des soleils levants. Cette façon d'épouser la vie, de penser qu'on n'en a qu'une et qu'un aussi, c'est sûrement un des plus grands bonheurs quand on a 100 ans. Elle te réveille pour te faire part de la nouvelle. Vous ne serez bientôt plus deux. Un écouteur au bas son cœur, il portera le nom du chanteur. Jour après jour, le même refrain. Tour après tour, le même amour. C'est possible sans se lasser. Je le veux. Demandez sa main sans oublier votre refrain. Vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu, sur toutes les avenues. Tu lui as demandé sa main et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs chacun, vous partirez vers l'inconnu.
Ma demande. C'était Marie Poulain ce soir dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Sous votre oreille bienveillante, Océane Herrero, le témoignage de Stéphanie Mistre. Stéphanie qui est la maman de Marie. Et Stéphanie, vous avez décidé d'attaquer TikTok dont on parle ce soir et que l'on condamne, on ne va pas se mentir. Ce soir, vous avez décidé de les attaquer en justice, les rendant responsables. Alors j'ai du mal à trouver les mots parce que ce sujet me touche infiniment, mais responsables de la descente aux enfers de Marie, parce que selon vous, il y a eu une machination par le contenu. On a le sentiment que TikTok est d'une cruauté implacable au motif aussi des gains qu'elle peut obtenir.
Engendrer, ouais.
Ouais. Vous l'avez dit, en fait, hors antenne, vous avez dit tout ça pour du fric, quoi.
Oui, et puis, vous savez, tout à l'heure aussi, Madame Herrero parlait des modérateurs. Mmh. En fait, TikTok a fait le choix, il y a une étude américaine qui a été faite, il n'y a pas de modérateurs, du coup. Il y a 1,5 milliard d'utilisateurs en 2022, d'accord ? Et ils ont fait le choix de ne pas investir sur les modérateurs parce que ça coûte de l'argent et préfèrent faire du profit. S'il n'y a pas de modérateur, TikTok est une passoire avec des contenus monstrueux qui en ressortent. Et en fait, j'ai envie de dire, tout à l'heure vous parlez des contenus positifs, mais c'est pas vendeur les contenus positifs. Un enfant qui fait du sport, qui va à la salle. Parce que je disais, Marie, la seule chose qu'elle a dû demander, c'est perte de poids peut-être. Et du coup, perte de poids veut dire quoi ? Veut dire qu'on est dépressif ? Non. On est une adolescente, on prend du poids quand on est une adolescente de 14, 16 ans. On n'est pas dépressif. Donc pourquoi lui envoyer et lui insuffler, vous savez, cette, comme vous parliez tout à l'heure, de cet embellissement de la dépression. En fait, on enjolive la dépression avec TikTok. On la rend rose, on la rend sympa, on la glamourise. En fait, ils valorisent tout ça et ils mettent ça dans la tête des enfants comme si c'était une évidence. Et pourquoi ne pas proposer des contenus positifs ? Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, vu que je me suis renseignée depuis quelques jours sur TikTok, pourquoi ne pas proposer Douyin, d'accord, le TikTok chinois, à nos enfants ?
Alors,
Pourquoi justement proposer aux Occidentaux les contenus nocifs et pas l'éducatif,
c'est hyper
le scientifique et le ludique?
Voilà, c'est hyper intéressant ce que vous dites, Stéphanie, parce que ce sera l'objet de notre prochaine séquence. C'est qu'on va informer nos auditeurs sur le fait qu'il y a un TikTok en Chine qui est absolument pas le TikTok des Européens et qu'ont les Occidentaux et qui, je le disais, sirotent le cerveau de nos enfants. On a l'impression, c'est mon fils qui dit ça, il dit bon, c'est comme si on mettait une paille dans le cerveau et qu'on me sirotait finalement mon intelligence. Et effectivement, oui, ça n'est pas le même TikTok et on va en informer nos auditeurs après. Il en est une qui nous écoute et elle est à vos côtés aussi dans une action judiciaire, c'est Maître Laure Boutron-Marmion. Vous êtes l'avocate de Stéphanie. Bonsoir, Maître.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Bah, merci d'être avec nous. S'attaquer à TikTok, c'est pas rien. On entend la voix de Stéphanie, on entend la force aussi qu'elle a puisée dans le drame qu'elle a vécu. Et dans ces cas-là, on sait qu'on peut déplacer des montagnes. Mais TikTok, c'est une putain de montagne, quoi.
C'est vrai, ouais, c'est pas rien, mais
c'est bien.
Mais c'est solide, ouais, ce qu'on a.
Mais j'en doute pas.
C'est-à-dire qu'il faut quand même penser que ça fait 2 ans et demi hein, maintenant qu'on est dans le combat. D'abord, la première lutte a été celle, évidemment, du harcèlement scolaire, qui est actuellement en cours d'instruction. Et c'est au cours, si vous voulez, de ce combat-là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement, il ne fallait pas oublier la responsabilité de TikTok dans le drame, puisque finalement, dans les derniers mois de la vie de Marie, si je puis m'exprimer ainsi, celle-ci a été exposée à des contenus absolument affreux. Bon, c'est l'objet de toute façon du débat depuis le début de cette émission, et donc je suppose maintenant que vous avez une vision un petit peu plus claire de ce qui peut circuler, mais je crois que la plupart des auditeurs ne s'en doutent pas, et c'est bien ça le problème, c'est que c'est une des premières choses que m'avait dit Stéphanie quand on a commencé à découvrir finalement ce qu'avait pu voir Marie, en disant mais si j'avais pu me douter mais un seul instant de ce qui circulait sur la plateforme, évidemment que ma réaction aussi aurait pu être différente, parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup des parents sur ce sujet-là, mais je crois qu'il est vraiment très important aussi de dire que les parents aujourd'hui, ce sont tous des générations qui n'ont pas été biberonnées
complètement
à cette typologie de plateforme et qui sont loin de s'imaginer de ce que on peut voir sur la plateforme. Pour vous donner une idée un peu claire, là, en ce moment, on est en train de travailler un sujet avec un de vos confrères, et donc il est, lui, voilà, il a la quarantaine, hein, il est actuellement en train de faire plein de contests, et il me dit, une nuit sur deux, je n'arrive pas à dormir. Il a 40 ans, il n'en a pas 12, il n'en a pas 13. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte que il faut cesser l'angélisme. Oui, il y a aussi des petits chats qui tombent du frigo et des chansons marrantes, mais TikTok, ce n'est pas que ça. Alors, évidemment, TikTok est le plus mauvais élève de la classe, mais il y aurait aussi à redire sur les autres plateformes, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le terme que vous avez eu plusieurs fois, vous avez dit la glamourisation de phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation de la souffrance mentale qui est absolument perverse, parce que finalement, l'enfant, vous savez, lui, il a besoin de validation dans ses comportements. Et en fait, en rendant les choses cool, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Et Marie, c'est ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que quand elle a commencé à exposer sur les réseaux, et notamment sur TikTok, qu'elle avait envie de se suicider, eh bien, plutôt d'avoir, d'une première part, des contenus qu'elle diffusait, qui étaient censurés, et qui auraient pu lui dire « Ah, mais alors attends, il y a un problème si on me censure mes contenus », eh bien, ça n'a pas été fait. Et puis, deuxièmement, qu'elle ne soit pas exposée elle-même à des contenus du même type, eh bien, peut-être qu'elle aurait pas eu la même réaction. Peut-être. On ne le sait pas, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie participation de la plateforme dans ce qui a pu se passer. Parce que quand on est un jeune et qu'on va mal, eh bien, si finalement notre réseau social, qui est censé être un peu notre refuge, nous envoie le message qu'en fait, rien n'est grave et que c'est même cool, hein. Parce que Marie, elle chantait des chansons sur le suicide. Et donc, il y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas de censure. Vous voyez?
Ouais, je vois très bien. Mesdames, vous restez avec nous. On va vous garder, hein, avec Océane Herrero, parce que vous avez évoqué aussi quelque chose d'important, Stéphanie, c'est que le TikTok n'est pas le même pour tous. Donc forcément, on aura envie d'avoir votre point de vue. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
RTL, jour J.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come close.
some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now. Ooh. Take it to the flow now. Ooh. Oops, spurs. To the flow now. Ooh.
Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots, solagenic, photogenic.
Texas Hold'em, c'est Beyoncé sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Océane Herrero est avec nous. Stéphanie Mistre, qui est la maman de Marie, dont vous venez d'entendre le témoignage et la force aussi du combat et la conviction. Et Maître Laure Boutron-Marmion, qui est donc avocate de Stéphanie Mistre, mais qui est, et c'est important de le dire aussi, la fondatrice et le conseil d'un collectif qui s'appelle Algos Victima. Vous pouvez nous en expliquer davantage, parce que je me dis quand même, Maître Boutron-Marmion, que certains auditeurs doivent se dire qu'ils vont parler avec leurs jeunes demain au petit-déj et essayer justement de les sensibiliser et très certainement s'inquiéter aussi pour eux. C'est important aussi qu'on puisse se tourner vers ce collectif. De quoi s'agit-il ?
Ce collectif, c'est un collectif à visée spécialement judiciaire.
Ouais.
Je l'ai fondé il y a quelques temps et il est né finalement il y a 6-8 mois à la suite de l'initiative que nous avons eue, l'initiative pénale que nous avons eue avec la famille de Marie de déposer plainte contre TikTok. Parce que à la suite donc de ce dépôt de plainte qui était le premier du genre en France, évidemment que l'événement a été assez médiatisé et donc beaucoup de gens sont venus à moi, beaucoup de familles pour m'expliquer qu'ils vivaient la même chose au foyer et voilà m'ont fait part un peu de leur témoignage et de là est germée l'idée qu'il fallait aussi peut-être songer à aller plus loin. J'ai vu tellement de ressemblances, si vous voulez, dans toutes ces histoires que j'ai eu l'idée de me dire eh bien maintenant il faudrait que toutes ces personnes-là je puisse les rassembler rassembler parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un sujet éminemment délicat et difficile pour les parents qui, bien souvent, lorsqu'ils y sont confrontés, ont honte, ont peur, enfin, sont fragiles sur le sujet. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas les rassembler, d'abord pour qu'ils soient plus forts aussi dans les initiatives à mener, qu'ils puissent se partager aussi les choses, hein, que ça puisse aussi peut-être être une cellule d'écoute, et puis également mais qu'on puisse agir hein, par toute voie de droit appropriée, puisqu'on sait bien que sur ces sujets-là, qui sont quand même très nouveaux et très pionniers, eh bien la force de l'union sera évidemment plus efficace. Donc ce collectif, Algos Victima, j'ai créé une adresse mail, si vous me permettez, je peux donner à l'antenne le mail. Donc c'est contact en minuscule, @ Algos Victima, tout attaché, algosvictima.com. Ouais. Et donc, du coup, cette adresse mail, j'invite tout le monde, mais même si c'est pour me faire part, ne serait-ce que d'un témoignage, tout est important dans ce sujet-là. Et donc, l'idée, c'est d'ici à l'été, déjà, le premier des combats, en tout cas, que mènera ce collectif, c'est de faire une action groupée contre TikTok, mais cette fois-ci, une action indemnitaire, un petit peu, si vous voulez, à la manière des Américains, puisqu'à défaut de class action, en France, on a un droit français assez limité sur la class action. En tout cas, le premier des combats que j'entends faire, mais je sais que des familles déjà nous ont rejoints pour des sujets avec Instagram, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Le collectif n'a pas pour but de se limiter au sujet de TikTok. Il a pour but de rassembler toutes les victimes des réseaux sociaux.
C'est noté. Je me tourne maintenant vers vous, Océane Herrero. Vous avez entendu, et c'est édifiant, c'est bouleversant, et puis vous l'expliquez très bien aussi dans votre livre, les conséquences hein, de la machination, comme le dit si bien Stéphanie, de ce réseau social. Ce que soulignait aussi, il y a un instant, Stéphanie, c'est que le TikTok n'est pas le même en fonction de ceux auxquels il s'adresse. Alors, on le répète, c'est une application chinoise, derrière laquelle se cache le pouvoir communiste chinois aussi. On n'aura pas le temps de l'évoquer ce soir, mais on le fera dans une prochaine émission. Alors, justement, expliquez-nous cette différence. Parce que d'un côté, on instruit les petits Chinois, on les élève, et puis de l'autre côté, on abrutit visiblement les Occidentaux, c'est ça l'idée ?
Alors, c'est un peu plus subtil que ça.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'équivalent de TikTok en Chine s'appelle Douyin. Les principales différences entre TikTok et Douyin sont que pour les mineurs en dessous d'un certain âge, Douyin est par exemple inaccessible durant certaines heures de la nuit, est plus limité en temps, et va proposer davantage de contenus qui ont trait aux sciences, etc. TikTok, ayant senti justement la pression politique de ce côté-là, et notamment aux États-Unis où il y a un texte de loi qui vise à l'interdire, qui a été signé par Joe Biden, avait annoncé étendre justement ce fil de vidéos davantage éducatives aux États-Unis, et a récemment annoncé aussi le faire en Europe. Donc on sent que, disons, la pression de la régulation est en train de peser sur leur stratégie. On sait que la Commission européenne a aussi lancé une enquête
Absolument.
Sur le sujet.
Menace grave en plus en matière de sécurité des données.
C'est la principale inquiétude aux États-Unis, en effet. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quand même extraordinaire de voir que d'un côté, on applique un réseau social éducatif en faisant très attention justement à ce que l'on peut reprocher à TikTok aujourd'hui, alors qu'en Occident, c'est du H24 full-time sap, quoi.
C'est extrêmement politique. Ça questionne aussi sur dans quelle mesure, en gros, on est prêt à ce que les gouvernements régulent le temps qu'on passe sur les écrans, etc. Ça pose ces questions-là. Qui se pose un peu moins en Chine. Il faut savoir aussi que Douyin s'est soumis à la censure chinoise, hein, donc c'est peut-être pas forcément le système dont on a envie, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir justement comment différents pouvoirs politiques décident de réguler ça.
Merci infiniment. Merci Stéphanie Mistre. Le temps file, donc je suis obligée de vous saluer comme ça, de cette façon-là, et de ne pas pouvoir parler davantage avec vous, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le faire dans une prochaine émission. Merci à vous, Stéphanie.
Merci à vous.
Et on
merci
vous souhaite
beaucoup,
le meilleur.
Oui. J'espère à très bientôt pour qu'on puisse en discuter encore.
Merci à vous. Merci Maître Laure Boutron-Marmion. Je rappelle donc le collectif Algos Victima. Quant à vous, Océane Herrero, je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent le système TikTok, donc comment la plateforme chinoise modèle nos vies aux éditions du Rocher. C'est hyper important aussi pour les parents qui nous écoutent. Merci beaucoup.